Bonjour à tous, il est midi, vous êtes bien sur Radio Bulle, votre radio de la Genève. Ophélie avec vous pour une nouvelle quotidienne. Je suis ravie de vous retrouver sur le 93.6. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un maraîcher lot-et-garonnais. Son exploitation se situe à Clermont-Dessous. Ça s'appelle le Jardin du Bousquet. Lui s'appelle Julien Purneau et c'est l'invité du jour. Bonjour Julien Purneau.
Bonjour.
Tu es donc maraîcher à Clermont-Dessous, au Jardin du Bousquet. Tu proposes des paniers de légumes bio de saison. Le Jardin du Bousquet, c'est une micro-ferme en maraîchage sur sol vivant. On va en parler, on va expliquer ce que ça veut dire. Mais avant ça, Julien, t'as pas toujours été maraîcher. Tu n'es pas fils d'agriculteur. T'as grandi dans le centre-ville d'Agen. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'au métier de maraîcher?
Alors, ce qui m'a mené au métier de maraîcher, c'est tout d'abord mon départ de la ville vers la campagne, qui m'a permis de créer mon premier petit potager. Je me suis très vite pris de passion pour la culture des légumes, la biodiversité, voilà, le potager en général, le jardin. Et ensuite, j'ai subi ou plutôt bénéficié d'un licenciement économique. Je bossais dans la grande distribution et je bossais pour un magasin qui a fermé. Et du coup, j'ai eu une petite enveloppe de formation qui fait que je pouvais choisir un petit peu ce que je voulais. Et donc, il fallait se reconvertir. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas allier passion et un métier qui m'intéresse de plus en plus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans le maraîchage. Donc, j'ai fait une année au lycée agricole de Sainte-Livrade, une année de BPREA. En fait, ça donne un brevet professionnel pour gérer une exploitation agricole, en fait.
Du coup, t'as travaillé dans la grande distribution. Quand t'as eu ton licenciement économique, tu t'es dit, au bout de quelques mois peut-être, je vais devenir maraîcher, enfin, je vais faire de cette passion mon métier, tout en sachant que financièrement, travailler dans la grande distribution, c'est plus confortable que d'être maraîcher. Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé ?
Ce qui m'a motivé, c'est effectivement, c'est beaucoup plus confortable d'être salarié d'une entreprise que d'être à son compte, et encore plus maraîcher. Je pense que c'est un des métiers dans l'agriculture qui est le moins rémunérateur et le plus physique. Ce qui m'a motivé, c'est cette passion pour le végétal que j'ai découvert, en fait, et puis. Et puis aussi tous les enjeux environnementaux qu'il y a autour de ça, en fait, autour de l'agriculture. Et je me suis dit que j'avais envie de participer à ça. Mmh. Et au début, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais quand je suis parti sur la création du potager, tout ça, il y avait aussi une volonté d'autonomie alimentaire, en fait. Oui. Pas qu'alimentaire. Moi, j'étais parti sur le truc de je veux faire des panneaux solaires, devenir autonome en énergie, tout ça. Bon, au final, c'est pour l'instant juste du jardin. Mais il y avait quand même cette idée-là au départ, ouais.
On va parler de la biodiversité et de la manière dont tu as construit ton potager, enfin ton jardin. Mais avant, je voudrais savoir, comme tu n'es pas enfant d'agriculteur, c'est un peu plus compliqué quand on n'est pas enfant d'agriculteur pour se lancer en maraîchage. Toi, tu as fait face à quelles difficultés ?
C'est très compliqué déjà de trouver un terrain, si on veut trouver... une maison et un terrain en même temps, le package là c'est encore plus difficile, c'est un peu je pense un parcours du combattant. Donc moi j'ai la chance d'habiter dans un endroit où on me met à disposition une prairie de 2000 m², hein, ce qui est minuscule, hein, c'est pour ça qu'on dit que c'est une micro-ferme. Je vais peut-être essayer de gratter un peu plus si j'arrive à trouver. Mais voilà, donc c'est tout petit, donc c'est vrai que j'ai eu cette chance, mais il y en a beaucoup qui galèrent, hein, pour te donner une idée sur ma promotion, parmi les élèves qui ont suivi le BPREA en même temps que moi, de mémoire, il n'y en a qu'un qui s'est installé et qui n'est pas fils d'agriculteur.
Oui. Je reviens du coup sur cette formation BPREA. En fin de compte, ça ne t'a pas forcément appris le métier de maraîcher. C'est surtout certains aspects, peut-être gestion de l'entreprise, gestion des comptes, tout ça.
Oui, c'est ça en fait. C'est plutôt, c'est plutôt de la théorie. On n'apprend pas à devenir maraîcher ni agriculteur. Hein. On apprend une partie du métier qui est en fait la partie un peu comptabilité, des grandes lignes sur, quand même sur l'agronomie, sur un petit peu de science, tout ça. Mais après, on apprend surtout pendant les périodes de stage, mais qui sont quand même relativement courts sur l'année. Puis après, il faut se former par soi-même, comme on veut, soit en travaillant chez des maraîchers, soit... Aujourd'hui, il y a quand même des choses aussi en ligne pour se former qui sont vraiment très intéressantes. Et voilà, qu'on n'apprend pas forcément au lycée agricole parce que ils sont pas forcément non plus au goût du jour sur tout ce qui est question d'agroécologie. Ils commencent à en parler, le bio aussi, mais c'est encore pas les grandes lignes, quoi.
Du coup, toi, comment je crois que ça s'est surtout fait sur YouTube. Comment t'as construit ton projet de maraîchage et t'as suivi quel modèle de ferme de maraîchage?
Alors non, sur YouTube, c'était ça fait des années que je suis un compte YouTube d'un ancien maraîcher qui maintenant explique aux gens comment créer un jardin, comment créer de la biodiversité, l'importance de créer des mares, des niches écologiques, tout ça. C'est ça d'abord qui m'a pris de passion, qui m'a donné envie de faire du potager. Et ensuite sur YouTube, effectivement, on peut suivre la vie de fermes. Et il y a notamment moi une ferme qui m'inspire tout particulièrement, qui s'appelle la ferme de Cagnol, qui sont vraiment des pionniers de ce qu'on appelle le maraîchage sur sol vivant et agroécologique. C'est une ferme qui, je pense, va vraiment révolutionner l'agriculture parce qu'ils arrivent à augmenter ils ont réussi à augmenter leur taux de matière organique dans leur sol en passant de 1,5 à peu près à 8, même plus de 8, ce qui est énorme et ce qui est, je pense, même du jamais vu. Et voilà. Et ensuite, il y a une autre inspiration qui vient d'un bouquin qui s'appelle Le jardinier maraîcher. C'est un Canadien qui s'appelle Jean-Martin Fortier qui a créé ça et en fait qui a créé un modèle de micro-ferme. Qui s'inspire fortement des anciens maraîchers parisiens en fait. Et voilà, et en fait il donne aussi des cours en ligne, une formation qu'on peut prendre, c'est un package qu'on a accès à vie et il y a beaucoup d'informations, il donne ses techniques, ses chiffres, ses façons de cultiver, ses itinéraires techniques, tout ça. Et voilà, ça c'est aussi très intéressant.
Donc, comment ça s'est construit le jardin du Bousquet? J'imagine que tu as testé plusieurs techniques. Comme tu n'y connaissais rien à la base en maraîchage, tu es passé par quel genre de technique?
Oui, alors j'y connais peut-être pas encore grand-chose. Je démarre, donc il y a encore plein de choses à apprendre, c'est ça qui est cool. Moi, au début, j'ai testé des techniques, mais plus de potager, de trucs que vont plus faire. Plutôt faire des particuliers pour ensuite aller vers quelque chose de plus professionnel avec l'utilisation de bâches, de toiles tissées, parce qu'au bout d'un moment, quand on produit beaucoup, on ne peut pas passer son temps à désherber. Et si on ne veut pas utiliser de produits, il faut trouver un petit peu des subterfuges comme ça, faire des compromis là-dessus. Donc ça s'est professionnalisé petit à petit avec des tunnels, des choses comme ça. Mais au début, c'était vraiment sur du modèle de potager classique, quoi.
Et du coup, tu as parlé tout à l'heure d'agroforesterie, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se présente dans ton potager?
Alors, l'idée de l'agroforesterie, alors je suis en train de mettre ça en place tout doucement, hein, ça ne ressemble pas du tout à ce que je veux pour l'instant. Alors, l'idée de l'agroforesterie, c'est de reproduire un petit peu l'écosystème, ce qui se passe autour de l'arbre dans une forêt, c'est-à-dire que en fait, les végétaux poussent, ensuite ils meurent, ils sèchent sur place, ils tombent au sol ou les arbres perdent leurs feuilles. Et tout ça vient être décomposé par la vie du sol et intégré sous forme de matière organique dans le sol. Et c'est ça qui crée une fertilité et un cercle vertueux. Et c'est en fait un petit peu ce qu'on a oublié dans l'agriculture, c'est qu'aujourd'hui, on puise dans le sol et on n'y remet jamais rien dessus. On fait que extraire des choses, des nutriments, des minéraux du sol, sans jamais rien y remettre. Ce qui fait que les sols s'appauvrissent, il y a de moins en moins de vie à l'intérieur, de moins en moins d'organismes. Et alors que c'est ça qui fait qu'un sol va être fertile.
Donc toi, tu donnes beaucoup à la terre?
Donc l'idée, c'est de mettre énormément de matière organique au sol. Principalement de la matière carbonée, c'est-à-dire sèche. Donc ça va être du broyat de bois, des feuilles mortes, ça peut être de la tonte. Voilà, le plus de carbone possible. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le carbone qui a été stocké par les plantes durant leur croissance et de le restituer au sol. Donc c'est vraiment de stocker du carbone, c'est ça qui va être digéré par le sol et transformé en matière organique et qui fait en fait une fertilité naturelle. Et une fois qu'on a ça, on n'a plus besoin d'utiliser des engrais qui soient de synthèse ou organiques. Mais voilà, c'est l'idée de créer un cercle vertueux en reproduisant ce qui se passe déjà dans la nature en fait.
Et donc tu donnes en fait au sol, enfin, tu nourris le sol et tu le travailles très peu.
Voilà, il y a aussi l'idée de très faible, voire non-travail du sol. Donc moi, je le travaille une fois à la création du jardin, parce que c'est quand même un truc costaud hein, de créer un jardin. Moi, je fonctionne sur planche permanente, donc il faut quand même un petit peu creuser les allées pour mettre de la terre dans ce qu'on appelle les planches de culture, qui sont en fait les rangées de culture. Donc j'utilise une petite motobineuse, mais un truc d'amateur, hein, enfin pas un truc professionnel, pour faire un premier travail du sol. Et ensuite, l'idée, c'est de plus du tout le travailler, juste de le décompacter si besoin avec une grelinette. Et après, de travailler juste la surface du sol, c'est-à-dire les 5 premiers centimètres, avec une espèce de mini motobineuse électrique qui fonctionne avec une petite perceuse. Après, ça va dépendre de ce qu'on veut semer, de ce qu'on veut planter.
Et du coup, je crois aussi que tu pailles beaucoup tes zones de culture. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Alors, le paillage, ben, c'est un petit peu, c'est en partie pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, pour nourrir le sol, mais c'est aussi pour garder en fait l'humidité et éviter l'évaporation de l'eau qu'on utilise.
Et comme quand tu bâches aussi, comme tu en as parlé tout à l'heure, c'est aussi pour garder l'humidité dans le sol ?
Alors, dans les micro-fermes, on utilise beaucoup de bâches d'ensilage qu'on récupère en fait chez des éleveurs. Et ça permet, alors ça a plein d'avantages. Ça permet de désherber sans utiliser de produits. S'il y a une zone qui se retrouve enherbée, on la bâche pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et quand on débâche, en fait, c'est tout propre. Il n'y a plus de mauvaises herbes, il n'y a plus qu'à planter ou qu'à faire son petit travail du sol et c'est reparti. Ça permet aussi de garder l'humidité. Ça permet, on va couvrir par-dessus des cultures ou ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Ça va aider la vie du sol à digérer tout ça. Et ça permet aussi d'avoir en fait aussi des couleuvres en fait qui vont passer sous les bâches parce qu'elles sont à l'abri, elles sont pas sujettes à des prédateurs et elles vont permettre quand même de pas mal réguler les populations de campagnols qui peuvent faire des gros dégâts chez les maraîchers.
Oui, parce que alors du coup toi on t'a mis à disposition un terrain donc de 2000 mètres carrés, c'est ça ?
C'est ça.
Donc à la base le terrain il n'y avait aucune culture dessus, t'as dû travailler la terre, mettre en place ton potager. Est-ce que t'as vu une différence au niveau de la biodiversité depuis que tu t'es installé ?
Alors oui, carrément, parce qu'avant il y avait en fait c'est une prairie sur laquelle il y avait des moutons avant, donc c'était toujours tondu à ras, donc il n'y avait aucune plante qui se développait vraiment qui pouvait faire ce travail pour nourrir le sol. Bon, il y avait quand même les moutons qui via leur déjection qui emmenaient ça. Mais du coup, c'est un sol qui était piétiné toute l'année. Hein. Faut imaginer des moutons sur une prairie en plein hiver, quand il pleut, ils tassent le sol en fait. Donc, gros travail de décompactage du sol en premier à la grelinette. Et puis après, très vite, moi j'ai voulu faire des mares en fait sur le jardin pour amener de la biodiversité. Et c'est assez hallucinant dès qu'on creuse un trou, qu'on y met de l'eau dedans, on a tout un tas de grenouilles qui débarquent, on ne sait pas trop d'où, des crapauds, voilà, un tas d'animaux, des hérissons, des serpents. Voilà, ça amène vraiment de la vie de mettre de l'eau, de créer des mares.
Julien, tu restes avec nous, on continue cette émission consacrée au Jardin du Bousquet. Le Jardin du Bousquet, je le rappelle, c'est une micro-ferme en maraîchage sur sol vivant. C'est des paniers de légumes, ça se situe lieu-dit Bousquet à Clermont-Dessous. Restez avec nous les amis, on se retrouve juste après le top de la musique.